Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à midi, une émission préparée ce matin par Hélène Lefrançois, mais aussi Marc Golleridon, Bertie Bourdon, Lucas Lazo, réalisée par Benjamin Hu et mise en onde ce matin par Cindy Le Grumelec. On poursuit notre série consacrée aux imbrications entre le politique et le religieux, foi politique et pouvoir religieux. Lundi, nous avons parlé des liens entre évangéliques et Donald Trump. Mardi, nous sommes intéressés au visage violent que prend le bouddhisme au Sri Lanka et en Birmanie, en tout cas parfois. Aujourd'hui, on reste en Asie pour parler d'une autre religion qui inspire la sérénité, mais qui peut aussi servir un projet nationaliste, l'hindouisme. Inde, l'hindouisation à marche forcée, c'est notre sujet ce matin dans Culture Monde.
Les musulmans qui sont nés sur le sol indien ou dont les ancêtres sont les enfants de notre mère patrie n'ont rien à voir avec la loi de citoyenneté. Il n'y a aucun musulman qui sera envoyé en centre de détention. Ce sont des mensonges. Ces gens qui viennent du Bangladesh et les musulmans Rohingyas sont plusieurs millions à avoir infiltré notre pays. Ils ont sérieusement endommagé notre économie et nos conditions de vie.
The third day of the violence that's taken place in the national capital. 10 people have been killed.
Depuis hier, nous appelons la police pour qu'ils mettent en place un couvre-feu et envoient des renforts, mais personne n'est venu. Il n'y a que 3 policiers. Il y a 2 jours, des pierres ont été jetées dans ma rue et des gens ont été blessés.
Je suis contre la loi sur la citoyenneté. Notre Premier ministre essaye de faire bonne impression auprès de la communauté internationale. Il essaye d'utiliser cette visite pour renforcer sa politique sur la nationalité. Nous, on est opposés à cela.
Depuis le début de la semaine, la ville de New Delhi est le théâtre de heurts intercommunautaires qui ont fait 20 morts et près de 200 blessés selon les derniers bilans, alors que Donald Trump était reçu comme un roi par le Premier ministre indien Narendra Modi en ce début de semaine. Ces violences marquent une nouvelle étape dans le mouvement de contestation qui secoue le pays depuis des mois maintenant. À l'origine de ces tensions, une nouvelle loi sur la citoyenneté particulièrement discriminante à l'égard des musulmans, puisqu'elle permet d'attribuer la citoyenneté aux ressortissants d'Afghanistan, du Bangladesh ou encore du Pakistan, sauf s'ils sont musulmans. Pour les quelques 200 millions de musulmans vivant en Inde, c'était la loi de trop. Mais au-delà de ce texte, la discrimination de l'islam s'inscrit dans une démarche plus large d'hindouisation de la société. Comment s'illustre ce projet précisément? Par qui est-il pensé? Comment se déploie-t-il? Quelles sont ses racines? La laïcité indienne serait-elle menacée? Et quelles sont peut-être les résistances à ce projet? Pour évoquer toutes ces questions, nous avons invité ce matin Jean-Luc Racine. Bonjour Jean-Luc Racine.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes directeur de recherche émérite au CNRS, chercheur senior à Asia Centre. Vous aviez piloté le numéro 173 de la revue Hérodote, consacré à l'Inde, géopolitique de l'Inde. À nos côtés également, Christophe Jaffrelot, bonjour.
Bonjour.
Merci également d'être avec nous. Vous êtes directeur de recherche aux séries et au CNRS, professeur à Sciences Po. Et puis vous aviez signé, c'était l'année dernière aux éditions Fayard, l'Inde de Modi, national, populisme et démocratie ethnique, c'était chez Fayard. On va commencer avec l'actualité, évidemment. Je le disais dans mon introduction, alors que Donald Trump était en visite en Inde, le pays est secoué depuis quelques jours maintenant par très importantes violences intercommunautaire. On a eu un certain nombre d'informations par le truchement de réseaux sociaux. On a eu un bilan officiel ce matin qui fait état d'une vingtaine de morts, de 20 morts et de plus de 200 blessés. Qu'est-ce que vous savez, vous, de ce qui se passe aujourd'hui à New Delhi? Est-ce qu'on a une idée des zones, des populations qui sont touchées? Et est-ce que là, aujourd'hui, on peut dire que très concrètement, ce qui est en train de se dérouler aujourd'hui à New Delhi, ce sont des violences à l'encontre des musulmans? Jean-Luc Racine.
Oui, en fait... On est là dans une phase qui marque une étape par rapport à des manifestations donc, qui ont commencé et avec une présence musulmane significative et même étonnante jusqu'à un certain point parce qu'il y a eu beaucoup de femmes dans la rue. D'ailleurs, les leaders traditionnels de la communauté musulmane, à Delhi entre autres, l'imam de la Jama Masjid, fait complètement déborder, c'est-à-dire au départ, il était sur le discours du Premier ministre en disant « ne vous inquiétez pas, cette loi permettant de nationaliser, de naturaliser des réfugiés, ça ne concerne absolument pas la population ». Et ce grand imam s'est retrouvé très vite débordé, il a changé son discours en quelques jours, parce qu'il y a eu là, vraiment, pour la première fois, je dirais, de façon aussi significative, une espèce de sursaut citoyen au-delà des musulmans. Là, ce qui se passe dans certains quartiers de Delhi à population largement musulmane depuis quelques jours, donc c'est une nouvelle étape. Il semble que les provocations soient venues de militants anti-protestataires, si j'ose dire. Ceux qui défendent cette loi.
Des nationalistes hindouistes.
Des nationalistes hindous. Si vous voulez, ce qui est assez frappant, c'est que depuis le début de ces troubles, il y a eu un discours qui est tout à fait en consonance avec la ligne générale du pouvoir, en disant en réalité, ces gens qui manifestent pacifiquement, ce sont de mauvais citoyens, ce sont éventuellement des agents du Pakistan, et en tout cas, ils sont manipulés par les partis d'opposition. Aujourd'hui, on est dans une nouvelle phase dont le caractère le plus marquant, semble-t-il, c'est le retard, pour le moins, de la police pour amener l'ordre. Et il faut rappeler qu'à Delhi, la police n'est pas sous l'ordre du gouvernement local, mais sous l'ordre du ministère de l'Intérieur.
Et donc, on peut l'imaginer assez encline à écouter ce que lui demande le BJP, le parti de Narendra Modi. Christophe Jaffrelot, votre analyse de la situation. Et puis, il faudra aussi quand même peut-être qu'on se penche sur les raisons de l'éclatement de cette violence. Parce que ça fait des semaines, en réalité, qu'il y a ces manifestations pour dénoncer justement ce projet. Et jusqu'ici, on était parvenu à contenir la violence. Alors qu'est-ce qui fait que maintenant elle éclate aujourd'hui,
Christophe Jaffrelot ? Il y a une dimension politique dans tout cela. Il faut bien rappeler le contexte post-électoral, puisque New Delhi, enfin Delhi en général d'ailleurs, a voté pour des élections régionales il y a quelques semaines seulement. Et la campagne électorale a fait monter la pression sur justement ce thème. Du point de vue du BJP, les manifestants sont des antinationaux et votez pour nous, nous défendrons la majorité hindoue de ce pays. Et c'est précisément dans la zone où on voit aujourd'hui les violences les plus grandes se manifester, en fait le nord-est de Delhi, hein, que le BJP avait réussi à faire passer ce message et avait eu quelques sièges. Mais
sachant qu'il a perdu mais cette élection-là, voilà.
C'était mon mais, okay. Mais il a perdu et lourdement perdu.
Très lourdement. Hein.
Donc, il y a une dimension politique, il y a une sorte petit 1 de revanche pour ceux qui vivent mal leur défaite, et petit 2 des luttes internes au BJP. Parce que la campagne a été menée sur ce thème très agressif de la dénonciation d'antinationaux. Et il y a des gens au BJP qui disent « c'est contre-productif, nous avons perdu à cause de ça ». Et il y a, comme souvent dans ces émeutes intercommunautaires, un billard à 3 bandes qui se joue. Des factions d'un parti, pour discréditer l'autre, vont mener des opérations comme celles qu'on voit de violence, brûlant des bidonvilles, avec effectivement la bénédiction de la police. Et c'est quand même le plus préoccupant, parce que ça n'est pas qu'à Delhi qu'on voit ça. Mmh. On a vu ça en Uttar Pradesh il n'y a pas si longtemps, quand les manifestants ont été, pour le coup, abattus par la police à balles réelles. Et donc on a maintenant un problème d'état de droit, mais aussi d'ordre public. Et c'est clairement la part des hommes politiques du BJP que cela vient.
Restons justement sur cette question de l'ordre public, le moment présent, et puis on reviendra effectivement sur cette défaite électorale qui est très importante à Delhi. Il faudra revenir aussi sur une autre échéance électorale qui était celle de l'année dernière, où là, pour le coup, le BJP l'avait emporté, et très largement, beaucoup plus, mais encore plus, de façon plus large que ce qu'on avait imaginé. Jean-Luc Racine, aujourd'hui, donc il y a cette posture de la police qui visiblement a l'air de laisser faire les nationalistes hindous. L'armée a été envoyée là en renfort pour essayer de calmer les choses. Est-ce que vous pensez qu'on peut revenir à l'apaisement, ou est-ce que vous pensez que ça va être très compliqué, que compte tenu de la radicalité des deux camps d'ailleurs, parce que en réalité les nationalistes hindous évidemment ont provoqué, visiblement c'est ce qui semble s'être produit, la situation, mais du côté des musulmans on en a marre aussi, c'est-à-dire qu'on en a ras-le-bol, et on peut imaginer un cycle de riposte, de vengeance suite voilà à tout un tas de discriminations et de violences à leur égard. Comment vous voyez les choses? Apaisement ou, au contraire, une aggravation de la situation, Jean-Luc Racine?
Bon, ce ne peut être qu'une hypothèse, mais l'apaisement n'est pas impossible. En général, quand il y a des émeutes à travers l'Inde, le tournant, c'est l'appel à l'armée, mais l'appel à l'armée, ça peut être simplement ce qu'on appelle flag march.
Là, il a été fait, l'appel à l'armée.
C'est d'ailleurs généralement des paramilitaires. Ça ne veut pas du tout dire qu'ils remplacent la police pour maintenir l'ordre, mais c'est un signal, en principe. Après, la question que vous soulevez, c'est une question importante, parce que jusqu'à présent, justement, à part de très 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 rares exceptions, l'une des caractéristiques majeures de ce vaste mouvement à travers l'Inde, en tout cas à travers les villes indiennes et pas seulement les très grandes métropoles, ça a été le pacifisme de ces manifestations. Donc il est toujours possible qu'une partie de la jeunesse, ou pas seulement de la jeunesse, du côté musulman, veuille continuer à accroître la tension en termes de revanche, en quelque sorte. Mais pour le moment, à mon sens, on ne peut pas du tout faire pencher la balance d'un côté ou de l'autre sur cette affaire. Mais ce qui est quand même significatif, encore une fois, là, je reviens sur un point qu'on a abordé, mais pour le mettre en perspective, quand on se rappelle ce qui s'est passé à Delhi, précisément, les mouvements de la police contre les universités, au départ contre l'université de la Jamia Islamia, qui, comme son nom l'indique, est une université musulmane, mais pas seulement, où on a vu des policiers venir molester les étudiants qui étaient en bibliothèque, pas des protestataires. Et quelques semaines plus tard, quand il y a eu un mouvement de fond à l'université Nehru, on a vu arriver des nervis masqués qui ont semé la violence pendant des heures, la police étant aux portes de l'université, et on a vu quelques heures plus tard ces mêmes nervis sortir sans être le moins du monde inquiété. Donc cette question de la police est absolument décisive, mais elle renvoie à une question plus large à mon sens, qui est le rapport entre le gouvernement et les institutions.
Christophe Jaffrelot, je voudrais vous entendre sur ce point, et je réinsiste sur la question de savoir quelle est aujourd'hui la possibilité de voir cette communauté musulmane s'engager dans une grande contre-offensive, et là pour le coup non pacifiste, parce qu'effectivement vous l'avez rappelé, jusqu'ici c'était des mouvements pacifistes, sauf que ça pourrait ne pas durer. Christophe Jaffrelot.
C'est le désir profond des nationalistes hindous, c'est de les provoquer au point qu'ils se radicalisent.
C'est ce qu'ils cherchent.
C'est ce qu'ils cherchent. Et ils n'y arrivent pas si facilement, parce que du côté musulman, on a compris que donner des arguments à une répression plus sévère, eh bien, ça n'avait pas été au bénéfice de la minorité. Quand on a eu un mouvement islamiste en Inde, on n'en a pas eu beaucoup. On en a eu un entre 2007 et 2008, qui a posé des bombes, qui a résisté, qui a réagi par la violence. Le résultat a été pire encore. Et donc, les musulmans sont plutôt dans une démarche pacifiste, constitutionnaliste. Ils manifestent la constitution à la main en permanence pour dire nous voulons simplement nos droits de citoyens. Mais du côté nationaliste hindou, pour pouvoir dire nous sommes menacés, ils sont véritablement djihadistes en puissance, c'est le mot qui revient sans cesse, et ils sont en cheville avec le Pakistan et ils ont une dimension transnationale, il faut pouvoir les faire réagir violemment. Alors, mon sentiment, c'est que il y a un risque qu'une minorité finisse par reprendre entre guillemets les armes. Et il y a des groupes, pas à Delhi, en fait c'est le Kerala, l'endroit où vous avez les quelques poches de djihadistes qui sont passés par le Golfe, qui ont été faire la guerre en Syrie, mais ils en sont très très peu nombreux.
Où les manifestations ont été particulièrement fortes, évidemment.
Oui, mais on a affaire à des individualités. Quand on fait le ratio islamiste par habitant en Inde, on a le pays musulman où il y a le moins d'islamistes, de très très loin. Mais c'est un des objectifs du nationalisme hindou des nationalistes hindous que de les pousser dans cette direction. Et le risque existe. Je pense qu'il est quand même minime. Je pense que, si vous voulez, ce qui va hélas se passer, c'est qu'on va retrouver le calme dans quelques jours, dans quelques semaines. Et on aura polarisé un peu plus. On est sur une logique de tension, on pourrait dire, permanente, mais de basse intensité. Il ne faut plus qu'il y ait de pogroms en Inde, comme il y en a eu au Gujarat en 2002, parce que ça donne une très mauvaise image du pays à l'international. Mais il faut maintenir la pression. Et ça, c'est ce qu'on voit. La multiplicité des escarmouches, le mot est trop faible parfois, hein, des rixes, c'est sans cesse.
Parce que c'est la condition qui permet au BJP de l'emporter électoralement, même si peut-être qu'effectivement la défaite à Delhi pourrait remettre un petit peu en cause tout cela. Jean-Luc Racine, peut-être un point sur cette question, c'est-à-dire cette radicalisation de la communauté musulmane, et en particulier parce que Christophe Jaffrelot nous disait les manifestants souvent manifestent constitution à la main. Est-ce que justement le salut ne pourrait pas venir du droit? Il se trouve que le texte concernant ces décrets sur la citoyenneté devraient passer devant la Cour suprême. Est-ce que finalement les juges pourraient régler la question et invalider cette loi et finalement siffler la fin de ces graves tensions?
Alors, dans le contexte où nous sommes, ce serait un peu surprenant.
Est indépendante en Inde.
Elle est indépendante au terme de la Constitution. Un certain nombre d'observateurs indiens se demandent si elle l'est toujours aujourd'hui. Et il y a un épisode véritablement stupéfiant qui a eu lieu il y a quelques jours, quand on a vu un des juges de la Cour suprême, Mishra, déclarer sa flamme au Premier ministre, en disant que Narendra Modi était, je cite, un génie versatile. Alors, ce qui sauve, c'est que aussitôt il y a eu une avalanche de critiques en se disant comment est-ce possible qu'un juge de la Cour suprême puisse tenir un tel discours. Donc, on balance toujours entre ces deux facettes. Mais la Cour suprême, elle s'est manifestée sur un autre point décisif du programme du BJP, qui était l'autorisation de construire ce temple monumental du Ram à Ayodhya, par un jugement qui a fait quand même, d'une certaine façon, une unanimité. On parlait des élections à Delhi. Le pouvoir à Delhi, le parti AAP, avait accepté beaucoup de choses dans ce sens.
Jean-Luc Racine, il faut réexpliquer peut-être pour les auditeurs cette affaire autour du sanctuaire d'Ayodhya dans l'Uttar Pradesh. Expliquez, parce que...
Donc, c'est une mosquée qui avait été contestée de longue date, dès avant l'indépendance, qui avait été mise sous scellé, qui a été partiellement rouverte sous Rajiv Gandhi, et qui a été détruite par des foules de militants nationalistes hindous avec des personnalités du BJP à leur tête en 1992. Donc la question devait finalement être tranchée, je passe sur les détails, in fine par la Cour suprême.
En novembre dernier, et donc ?
Et donc la Cour suprême a tenu le raisonnement suivant en gros. Ce qui s'est passé avant et lors de la destruction de la mosquée est évidemment contraire au droit, mais nous donnons... le terrain de cette mosquée emblématique pour les hindous, pour que ce fameux temple soit construit.
Christophe Jaffrelot, et puis ensuite on va vraiment venir aux dernières élections à New Delhi, vous allez voir, on va y arriver.
La question est très importante,
hein,
celle du pouvoir judiciaire dans un contexte aussi tendu. Il y a un autre exemple de capitulation des juges, c'est l'affaire du Cachemire. Le 5 août dernier, l'article 370 qui donnait une autonomie poussée au Jammu et Cachemire est aboli. L'État du Jammu et Cachemire est transformé en territoire de l'Union. Donc là encore, la police du coup est dans la main du pouvoir central. Et la Cour suprême est saisie. Depuis le 5 août dernier, elle n'a pas pris le dossier en main. Alors que il y a des dizaines, des centaines peut-être, de cadres des partis régionaux de la zone qui sont assignés à résidence ou en prison. Trois anciens chefs de gouvernement de Srinagar parmi eux. La justice est silencieuse. Donc on est dans un système, dans un contexte où on peut craindre effectivement une perte d'indépendance. On peut aussi craindre, ce serait Rhinocéros Ionesco revisité quelques décennies plus tard, que le majoritarisme finisse par atteindre tous les esprits et que finalement l'idée qu'il y a des citoyens qui sont plus égaux que d'autres, c'est une autre référence littéraire, devienne la norme. Et là, on est sur une logique de majoritarisme qu'on retrouve ailleurs. Hein. La Cour suprême israélienne a longtemps résisté au sionisme et puis elle a eu des passages à vide. Eh ben, les juges sont dans une société, ils sont dans la société, ils sont dépendants de l'idée qu'on se fait de l'identité nationale, eux aussi. Et donc, c'est pas seulement parce qu'ils ont peur, ça ils ont peur, ça c'est sûr, mais c'est aussi parce qu'ils y croient.
Jean-Luc Racine, alors venons-en, parce que si les manifestations se sont enchaînées ces dernières semaines autour de ces décrets sur la citoyenneté, le BJP avait remporté d'abord une victoire quand même massive au printemps dernier, 47% des voix contre 27% pour la liste qui était menée à l'époque par Rahul Gandhi, membre du parti du Congrès, sauf que entre-temps, Christophe Jaffrelot l'a dit tout à l'heure, le BJP a perdu des élections importantes à New Delhi, des élections locales, n'obtenant que 10% des sièges, malgré une campagne extrêmement engagée, où le BJP a d'ailleurs lancé de nombreuses attaques à l'endroit du chef du gouvernement régional sortant, l'accusant d'être un terroriste complice du Pakistan. Alors, est-ce que, Jean-Luc Racine, cette défaite est le signe que finalement le BJP est en phase de déclin et que ce discours anti-musulman qui avait quand même fait sa capacité, cette incroyable machine à gagner des élections depuis un certain nombre d'années maintenant, est-ce que ce discours-là n'est plus aussi payant électoralement, Jean-Luc Racine ?
Alors, il faut être très prudent sur cette question, parce que il y a une espèce de règle non dite, mais bien connue en Inde. Les électeurs peuvent voter de façon différente quand ils votent pour le Parlement, c'est-à-dire in fine pour qui sera le ou la Première ministre, et la façon dont ils votent dans leurs États. Donc,
c'est partout pareil, chez nous c'est la même chose.
Oui, mais là on a vu le BJP dans la première phase, après l'élection de Narendra Modi en 2014, gagner à répétition des élections dans différents États de l'Inde. La carte électorale se colorait de la couleur safran qui est la couleur emblématique des nationalistes hindous. Et puis on les a vus perdre des élections, mais souvent perdre d'assez peu, parce que le système électoral indien permet des basculements politiques avec quelques simples glissements dans le pourcentage des voix. Donc là, évidemment, il est difficile de se prononcer sur est-ce que l'élection de Delhi est le signal d'un déclin. Je ne crois pas à un déclin, mais d'une phase difficile. Sûrement. Mais en même temps, et c'est bien pour ça qu'il y a eu des divisions au sein du parti sur l'appréciation de ce qu'a été la ligne politique dans ces élections, le pouvoir, et pour l'essentiel le pouvoir central, a décidé de jouer la carte, le désordre des manifestants, la grandeur de l'Inde, etc. Alors que Kejriwal, le chef du gouvernement sortant, donc de ce parti AAP, Parti de l'homme ordinaire, a été, lui, très prudent. On ne l'a pas vu sur les sites de blocage de ces citoyennes musulmanes près de la Jamia Millia. Il a été extrêmement discret, mais il a mis en avant, et ça c'est significatif, son bilan de sortant, et qui est un bilan largement positif. Donc,
Notamment sur la question de l'accès à l'eau et de l'accès à l'électricité.
L'eau, la santé, ouais. Les écoles, etc.
Mais là où il a été bon, justement, c'est que le bilan est bon, mais il y a aussi eu les quelques signes qui permettaient de satisfaire l'électorat nationaliste hindou. Par exemple, sur la question du financement des pèlerinages. Est-ce que, Christophe Jaffrelot, on a trouvé la recette dans l'opposition pour précisément répondre à cette rhétorique nationaliste du BJP?
Si c'est la recette, elle est inquiétante. Parce que ça voudrait dire qu'on ne peut plus dire autre chose que hindouism first, en quelque sorte. Hein. Qu'on est justement dans le majoritarisme et que ce que je disais des juges peut s'appliquer aussi à l'opposition. Il y a une espèce de légitimité réservée à ceux qui défendent la majorité communautaire, enfin la communauté majoritaire. Et dans le cas de Kejriwal, faut pas oublier que non seulement il ne s'est pas opposé à la loi sur la citoyenneté, mais il ne s'est pas opposé non plus à l'abolition de l'article 370, ce qui est quand même très paradoxal, puisqu'en fait, il ne cesse de se plaindre du fait que son état, Delhi, n'ait pas suffisamment de pouvoir, notamment de police, ce que justement on vient de retirer au Jammu et Cachemire. Donc il est quand même très dans la ligne, entre guillemets, c'est peut-être le signe qu'effectivement, plus personne ne peut dire autre chose que ce que le discours dominant cultive. Alors, ceci avec un bémol, on a effectivement un découplage des comportements électoraux entre le niveau national et le niveau des États. C'est pas que pour New Delhi, comme Jean-Luc le disait, en fait depuis 2017, le BJP ne remporte plus d'État. En fait, on a maintenant des coalitions où le BJP peut garder le pouvoir, mais grâce à des appoints, ou des coalitions anti-BJP. Et du coup, le nombre d'États gouvernés par le BJP est inférieur au nombre d'États gouvernés par des partis autres, BJP. Et équivalent au nombre d'États gouvernés par le Congrès. Et ça, ça veut bien dire qu'on est dans du national-populisme. On vote Modi quand il est le candidat. C'est l'homme fort qui va vous défendre contre le Pakistan, contre les minorités. Mais on ne vote pas BJP quand c'est un autre qui peut être votre gouvernant au niveau provincial. Et là, la pyramide, elle est sur la tête, en quelque sorte. Ce qui est fort est au sommet, mais la base s'affaiblit. On n'a jamais vu ça en Inde. On n'a jamais vu à ce point un contraste entre quelqu'un qui a la majorité absolue au Parlement et qui ne gouverne pas plus d'un tiers des États. Et là, on voit bien que la culture politique se transforme, que le populisme, c'est précisément la relation entre un homme et son peuple, court-circuitant les institutions, les partis y compris. Et on rentre dans une nouvelle logique qui pose la question, après Modi, quoi ? Parce que pour le parti lui-même, il n'est pas du tout rassurant de voir que sa popularité s'effrite à ce point à la base.
Jean-Luc Racine, vous vouliez réagir.
Oui, je pense que ce qui a été marquant aussi dans la campagne de Kejriwal, c'est ce qu'on appelle en Inde souvent...
Je rappelle, hein, qui était le candidat du parti de l'homme ordinaire,
voilà. Donc qui gouvernait Delhi, voilà. Et qui a été réélu. C'est qu'il a joué aussi la carte de l'identité hindoue, mais à sa manière. Il est allé visiter par deux fois, avant le scrutin et après la victoire, le temple d'Hanuman. Hanuman, le dieu, le serviteur de Rama. En ayant bien soin que les caméras et les photographes soient là. Mais ça, il a simplement fait mieux que Rahul Gandhi lui-même, qu'on a vu lors de la campagne de 2019, avec le point rouge sur le front, aller ici ou là à tel pèlerinage. Donc ça, c'est ce que les opposants clairs et nets au nationalisme hindou appellent l'hindouité soft, le soft hindutva. Mais, et j'en termine, on voit bien dans la carte électorale que ce genre de choses ne marche pas partout. C'est pas tout à fait un hasard si, quand on prend la carte des résultats donc de 2019, un triomphe, vous l'avez dit, d'ampleur inattendue pour le Premier ministre.
Alors même que tout le monde disait il va y avoir un problème, c'est son bilan économique qui n'est pas bon,
oui.
Et en réalité, ça n'a plus d'importance.
Mais là, il faut dire que l'attentat au Cachemire en février et l'usage qui a été fait de Modi, c'est le gardien qui nous protège, il y a eu une instrumentalisation parfaitement maîtrisée de la question sécuritaire. Mais le résultat au final, c'est que dans les trois États du Sud, Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Kerala, aucun élu BJP. Donc il y a des poches de résistance qui viennent des partis qui sont là depuis longtemps. Donc ce qu'on voit dans l'Inde du Nord est évidemment décisif parce que le poids majeur de l'Inde est là. Mais il y a des résistances. Et ce qui est, à mon sens, significatif aujourd'hui, c'est que ces résistances de partis d'opposition... On pense à Mamata Banerjee au Bengale, entre autres. Ils ont été eux-mêmes, d'une certaine façon, dépassés par l'ampleur des manifestations citoyennes brandissant le préambule de la Constitution.
Christophe Jaffrelot, dépassons justement un peu le moment présent, l'actualité immédiate et cette question des décrets sur la citoyenneté qui pose problème. Regardons un peu l'action de Narendra Modi concernant cette démarche d'hindouisation de la société. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples qui nous permettent de comprendre justement ce qui a été fait pour hindouiser la société? Et puis essayer de voir aussi jusqu'où est-ce que ça pourrait aller. On parlait tout à l'heure de constitution. Est-ce que par exemple Narendra Modi pourrait aller jusqu'à demander une révision de la Constitution de 1949 qui, je le rappelle, déclare le pays comme étant une république souveraine, socialiste, laïque et démocratique.
Christophe Alors, Jaffrelot. Sur le premier volet, on peut, en quelque sorte, de façon impressionniste, illustrer cette hindouisation à partir de plusieurs exemples. L'un d'entre eux, la réécriture des manuels d'histoire. Comment est-ce qu'on raconte l'histoire dans les classes du secondaire en Inde? De plus en plus, en diabolisant les envahisseurs musulmans, en niant la synthèse entre hindouisme et islam qui s'était faite notamment à travers le soufisme, notamment à travers une civilisation qu'on pourrait qualifier de hindoustani, hein, qui est à la fois musulmane, persane et hindou. Le récit des atrocités commises par les envahisseurs qui sont devenus monnaie courante. Dans ces manuels d'histoire aussi disparaissent les pionniers du sécularisme à l'indienne. Il y a des états, parce que c'est régionalisé l'éducation, où Nehru lui-même ne figure plus dans les manuels d'histoire. Hein. Nehru, c'est leur bête noire. C'est vraiment celui qui aura introduit le multiculturalisme. Ça, c'est un exemple. Un autre exemple, c'est la façon dont les ONG de confession chrétienne sont mises en difficulté parce qu'elles ne peuvent plus recevoir d'argent de l'étranger et vous les voyez mettre la clé sous la porte. Il y a un très grand exemple de cela, c'est Compassion. Compassion était une ONG américaine qui était en Inde depuis 1968, qui avait plus de 150 000 enfants dans des écoles qui n'étaient pas que chrétiennes, loin de là, mais qui a dû arrêter. Et John Kerry est monté au créneau, mais ça n'a pas suffi. Il y a eu des protestations nombreuses, sans effet. Troisième exemple, c'est plus de l'ordre du symbole, mais le symbole importe. Les premiers ministres, y compris Vajpayee, le seul autre premier ministre BJP que l'Inde ait connu, avaient coutume de célébrer la fin du Ramadan avec des musulmans. C'était les iftar parties, hein, qui étaient des symboles, rien d'autre, mais qui étaient une reconnaissance de la présence de musulmans dans le pays. Narendra Modi, qui avait déjà cessé de faire la chose quand il était chef du gouvernement du Gujarat, a évidemment continué à ne pas le faire à la tête du pays. Donc on est dans du symbole. Alors, après, il y a une dimension plus substantielle qui me tient particulièrement à cœur, c'est la marginalisation de fait des musulmans. Parce que là, on peut parler de la loi, là on est dans du droit. De jure, les musulmans deviennent des citoyens de seconde zone. Mais de fait, ils le sont déjà. La ghettoisation qui fait qu'il est très difficile pour des musulmans de trouver à vivre dans des quartiers mixtes. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on s'attaque à des quartiers de Delhi? Parce que ces quartiers sont musulmans. Hein. Ghettoisation qui était déjà marquée du fait des violences au Gujarat par exemple. Deuxièmement, vous voyez les musulmans perdre des positions dans toutes les instances élues. Il y a de moins en moins de députés, de moins en moins de représentants de cette communauté. Il y a 15% de musulmans en Inde, ils sont moins de 4% des députés à la fin nationale. Et dernier point, mais très important.
D'ailleurs, on a mis fin à la politique des quotas.
Les musulmans n'en ont jamais bénéficié. Les quotas ne profitent qu'aux aborigènes, les tribus et les basses castes. Tout dernier point, mais très important pour notre affaire de Delhi actuelle, la sous-représentation des musulmans dans l'administration et la police. Là aussi, on les voit perdre des positions. Et dans l'armée, il y a 1% de musulmans. Il n'y en a jamais eu beaucoup. Hein. C'est pas nouveau, ça. Mais évidemment, c'est un problème de plus.
Jean-Luc Racine, sur cette question de l'hindouisation et la possibilité peut-être pour Modi, à terme, d'opérer une réforme constitutionnelle.
Alors, la réforme constitutionnelle, il peut avoir un argument. Parce que c'est uniquement sous Indira Gandhi qu'un amendement en 1976, si je ne me trompe, a été voté pour ajouter au préambule de la Constitution que la République était laïque et socialiste. Aujourd'hui, la plupart des députés seraient d'accord pour un amendement en disant l'Inde n'est plus socialiste, si tant est qu'elle l'ait jamais été. Mais évidemment...
Mais laïque, c'est une autre affaire quand même.
Mais là, c'est une autre affaire, séculaire, comme on dit en Inde. C'est pas la laïcité à la française, bien sûr. Pour cela, alors, il y a une théorie là-dessus. Je veux dire, les idéologues, quoique le discours de l'Assemblée des volontaires nationaux, le RSS, qui est vraiment la matrice idéologique et organisationnelle du mouvement nationaliste hindou, tiennent parfois des discours étonnamment conciliants, mais au fond des choses, tous ces gens considèrent que il faudrait modifier cette chose. Pour le faire, il faut avoir évidemment une majorité consistante dans les deux chambres.
Il l'a, la Modi ?
Il ne l'a pas, mais ce qu'on a vu lors de l'affaire du Cachemire et lors de l'affaire de la loi sur peut-on naturaliser les réfugiés non musulmans venant des pays voisins, là, ils ont eu une majorité de circonstances à la Chambre haute, ce qui permet évidemment de plier toute l'affaire. Donc là, ça sera vraiment la pierre de touche. S'il y a les moyens de modifier la Constitution sur le plan du sécularisme, de la laïcité à l'indienne, là, ça sera significatif. L'autre point que je voulais ajouter à ce que Christophe a dit, dans la mise en valeur de l'hindouité, c'est évidemment ce qui s'est passé sous le mandat numéro 1 sur la question de la vache et de l'interdiction dans les États gouvernés par le BJP de l'abattage de la vache, en sachant que le commerce du bœuf, que ce soit de la vache ou du bœuf, n'a aucune importance, c'est essentiellement dans la main des musulmans et des dalits, ce qu'on appelait jadis les intouchables. Alors là, sur ce plan-là, sur le plan des musulmans, pour les nationalistes hindous, il n'y a pas de problème. Sur le plan des dalits, c'est un peu embêtant, parce que la stratégie du parti au pouvoir de longue date, et ça avait été théorisé par certains idéologues, pas par tous, c'est de dire la consolidation de l'hindouité et du vote hindou implique qu'on dépasse les hiérarchies de castes et qu'on intègre dans notre mouvement les plus basses castes. Mais donc là, il y a pu avoir quelques accrochages. Mais ça, c'est vraiment ce qui a été le plus symbolique à mon sens, avec malheureusement, au-delà du symbole, des lynchages qui ont eu lieu contre des consommateurs présumés de bœuf ou de malheureux qui transportaient quelques bêtes et qui ont été victimes d'une foule surexcitée.
Oui, avec parce que tout ça est parfaitement formalisé, notamment dans des groupes, dans des milices, le Gau Raksa Dal, le GRD, le Parti de la Protection des Vaches, qui sème la mort à ceux qui s'en prennent justement aux vaches, aux bovins, et toutes les minorités religieuses sont prises pour cible, hein, les musulmans, les chrétiens, etc. Christophe Jaffrelot.
Oui, je voulais revenir sur la formule de Jean-Luc quand il dit qu'il y avait une majorité de circonstances à la Raja Sabha. C'est un point très intéressant. Parce qu'effectivement, ont voté pour cette réforme de la citoyenneté de nombreux partis régionaux classés dans l'opposition au BJP, mais certains d'entre eux se sont dédits peu après, voyant des manifestations monstres, et ont dit « nous n'appliquerons pas cette loi ». Alors, on est dans une situation tout à fait unique. Les gens ont voté au Parlement une loi qu'ils ne veulent pas appliquer dans leur État. Et donc... La question est très importante. Y a-t-il une majorité pour un projet nationaliste hindou en Inde? Est-ce que la Chambre haute pourrait faire barrage? Et est-ce que, ultime interrogation, le BJP traite tellement mal ses alliés qu'il se les aliène? Force, exemple, la Shiv Sena à Bombay, qui a fini par quitter l'alliance avec le BJP pour s'allier avec le Congrès. Là, on retrouve la politique.
Christophe Jaffrelot, encore une dernière question, puisque après vous allez devoir nous quitter, donc j'en profite, et puis on va accueillir dans un très court instant Paul Rollier, on va parler du Pakistan, mais Jean-Luc Racine a évoqué la question des castes tout à l'heure. La Constitution, normalement, ne reconnaît pas les castes, sauf que en réalité, ça reste quand même très prégnant dans l'organisation sociale et sociétale aujourd'hui en Inde. Comment est-ce que le projet nationaliste hindou de Narendra Modi s'articule avec cette question des castes? Est-ce qu'elle, précisément, l'hindouité telle qu'elle est pensée par Narendra Modi dépasse, transcende cette question des castes, ou au contraire, elle la renforce? Je vous demanderai une réponse courte, s'il vous plaît.
Oui, c'est l'objectif. L'objectif, c'est de faire en sorte que les basses castes oublient qu'elles sont de basse caste et qu'elles se voient comme hindoues avant tout. Et l'hindouisme nationaliste, c'est la réponse à la montée des basses castes. Hein, tout comme Bolsonaro est une réponse à Lula, tout comme Trump est une réponse à Obama, quand on se sent menacé par des nouvelles forces montantes, eh bien on cherche à gommer les divisions sociales. Donc c'est l'objectif. Et Modi est l'instrument rêvé pour cet objectif, pour atteindre cet objectif, puisqu'en fait il est lui-même de basse caste. Et donc on a là une revanche des hautes castes, qui n'ont jamais été aussi nombreuses au Parlement depuis les années 80, mais avec le héros OS ou AUT, comme vous voulez, idéal, qui est Narendra Modi. Et ça repose la question de, après Modi, qui? Il fait une alchimie unique en son genre. Il est de basse caste et un homme nationaliste hindou par excellence.
On était avec vous, Christophe Jaffrelot, et vous, Jean-Luc Racine, dans cette série consacrée à la foi politique, au pouvoir religieux. Aujourd'hui, on parle de l'Inde, mais on va traverser la frontière, regarder du côté du Pakistan, parce que l'Inde, c'est pas le seul pays où, évidemment, il y a des persécutions à l'égard de minorités religieuses, et c'est aussi le cas du côté du Pakistan, à majorité musulmane.
France Culture, Culture Monde, Florian Delorme.
Les musulmans ne nous aiment pas. Ils n'aiment pas qu'on touche aux objets qui leur appartiennent. Moi, je suis femme de ménage chez des musulmans. Je lave par terre, je m'occupe du linge, mais ils ne veulent pas que je fasse la cuisine ou que je touche leur nourriture, parce que je suis chrétienne.
Voilà, on va essayer de regarder comment est-ce que les minorités religieuses, qu'elles soient chrétiennes ou hindoues, sont victimes parfois de violences. Bon, on va retrouver par téléphone Paul Rollier, bonjour.
Bonjour.
Merci infiniment d'être avec nous ce matin. Vous êtes anthropologue, professeur assistant en études sud-asiatiques à l'université de Saint-Gall en Suisse. Alors, en France, on connaît bien cette question des discriminations à l'égard des minorités religieuses au Pakistan et notamment à travers le cas d'Asia Bibi, cette jeune chrétienne condamnée à mort pour blasphème en 2010 après avoir voulu boire dans un puits, qui a finalement obtenu sa libération en 2018 et qui vient tout juste de demander asile en France. Elle sera d'ailleurs reçue par Emmanuel Macron à la fin de la semaine. Est-ce que vous diriez que Asia Bibi est un cas à part, où finalement, il est assez représentatif de la discrimination dont font l'objet les minorités religieuses au Pakistan, Paul Rollier?
Oui, c'est une très bonne question. Je crois en effet que ce cas-là est assez représentatif, puisqu'il nous montre bien à quel point au Pakistan, l'identité religieuse et l'identité de caste sont mêlées. En l'occurrence, ce qu'il faut savoir, c'est que la vaste majorité des chrétiens pakistanais sont d'anciens intouchables qui se sont convertis à la chrétienté durant la période coloniale. Malheureusement, cette conversion n'a pas suffi, si vous voulez, à effacer le stigmate qui les touche. Or, dans l'affaire d'Asia Bibi, il s'agissait au début, en effet, d'une question de pollution rituelle. Mmh.
Paul Rollier, est-ce qu'il faut comprendre qu'en réalité, ces discriminations à l'égard de minorités religieuses au Pakistan existent depuis le début, c'est-à-dire en tout cas depuis l'indépendance en 1947?
Alors voilà, c'est toute la question. Il faut savoir que le Pakistan est un pays fondé pour la minorité musulmane de l'Inde britannique en 1947. Donc il y a déjà un rapport à la minorité qui est assez problématique, puisque vont se retrouver 3, 4, 5% de minorités religieuses dès 47 dans le pays. Puis, il y a une évolution, c'est-à-dire que le pays devient de plus en plus un État islamique au cours des décennies, et particulièrement à partir des années 80, où là, la question des minorités religieuses devient de plus en plus centrale dans la définition même de ce que veut dire être pakistanais.
Pourquoi à ce moment-là en particulier? Parce que c'est vrai que, en réalité, les chrétiens, notamment, n'étaient pas particulièrement visés par les violences jusqu'aux années 80. Et là, il y a vraiment un tournant qui se passe. Alors même que la loi sur le blasphème, on l'a régulièrement évoquée ici à ce même micro, elle existait depuis très longtemps, puisqu'elle a même été introduite par les Britanniques dans les années 1860. Donc en réalité, il y avait déjà les outils, si je puis dire, d'une discrimination, de violence à l'égard de ces chrétiens. Et pourtant, il se passe quelque chose dans les années 80. Comment le comprendre?
Absolument. Durant les années 80, donc c'est la période de la dictature du général Zia-ul-Haq, qui procède à ce qu'on appelle communément un processus d'islamisation de la société et du droit pakistanais, afin de légitimer son propre régime. Et à cette période-là, on a l'introduction de nouvelles lois sur le blasphème qui visent spécifiquement à protéger les symboles musulmans et pas tous les symboles religieux. Donc, à partir des années 80, il va y avoir une instrumentalisation de ce droit anti-blasphème et, ailleurs, une augmentation des violences sectaires. Mmh. Donc on a les deux phénomènes conjoints qui expliquent un petit peu pourquoi les minorités religieuses se trouvent de plus en plus acculées, persécutées à l'occasion.
Encore une question et puis ensuite je ferai réagir Jean-Luc Racine qui est ici avec nous en plateau. Est-ce qu'on peut penser, Paul Rollier, compte tenu du pouvoir politique qui aujourd'hui est en place au Pakistan avec ce Premier ministre Imran Khan qui est plutôt conservateur, question volontairement naïve, provocatrice, limite. Est-ce qu'on peut imaginer que cette fameuse loi sur le blasphème soit abrogée, ou en tout cas que l'on assouplisse les choses de sorte à ce que les chrétiens ne soient plus aussi visés, justement?
Dans l'immédiat, je crois que c'est assez inenvisageable. Imran Khan a fait des signes d'ouverture dans ce sens-là, mais pour le moment, on voit, il n'y a rien sur la table. Le sujet est bien trop brûlant pour être débattu publiquement.
Quand vous dites qu'il est trop brûlant, c'est que la pression des islamistes radicaux est trop forte et leur influence trop forte?
Exactement. Ils ont un pouvoir de la rue, ils ont la capacité d'immobiliser complètement le gouvernement civil, ce qui fait qu'il est impossible d'avancer sur le dossier, même d'avoir un simple débat dans les médias ou au Parlement.
Vous restez avec nous. J'ai encore une ou deux questions à vous poser. Jean-Luc Racine, une réaction sur ce cas du Pakistan que vous connaissez très bien aussi.
Oui, il faut d'abord rappeler que dans le texte de la constitution pakistanaise, l'existence des minorités religieuses est reconnue et ses marges de manœuvre sont garanties. Ça, c'est le texte. Après, c'est vrai que l'islamisation intensifiée sous le régime Zia est en fait la source des maux d'aujourd'hui. Et ça, c'est reconnu très clairement chez les libéraux pakistanais. Pour le reste, je pense que on ne peut pas parler du sort des minorités pakistanaises en se confinant aux minorités chrétiennes ou hindoues. Parce que ce qui est frappant dans un État qui est une république islamique, c'est que la minorité chiite est elle-même l'objet de violences de la part des radicaux sunnites.
Rappelons qu'on est dans un pays où il y a à peu près 90% de musulmans, avec 70% de sunnites et 20% de chiites,
oui,
en gros.
Il n'y a pas de recensement religieux.
En gros, on dit
15 à 20%. Oui. Et donc d'un côté, on a des chiites qui peuvent accéder à de très hautes responsabilités, et de l'autre côté, particulièrement dans la province du Baloutchistan voisine de l'Iran, on a à répétition des attaques meurtrières contre les chiites. Et ça nous renvoie à la question qu'on a abordée tout à l'heure sur l'accueil proposé par Narendra Modi pour les minorités religieuses du Pakistan, d'Afghanistan et du Bangladesh, musulmans exclus, parce que un des arguments a été de dire, mais attendez, d'un côté, vous n'êtes pas prêt à accueillir les musulmans Rohingyas, et de l'autre côté, tout le monde sait très bien qu'il peut y avoir des tensions contre les minorités, y compris au sein de l'islam. C'est théorisé, hein, c'est la fitna, c'est le combat au sein de l'islam.
Alors, Paul Rollier, justement, parce que je parlais de Asia Bibi tout à l'heure, et donc des discriminations et des violences à l'égard de la minorité chrétienne, qu'en est-il de la minorité hindoue du côté du Pakistan? Est-ce qu'au fond, on a le miroir inverse de ce qu'on décrit depuis tout à l'heure du côté de l'Inde? Je voudrais que vous nous éclairiez un tout petit peu sur les formes que prennent les discrimination vis-à-vis des hindous au Pakistan?
Alors, les hindous sont localisés dans le sud du pays, et comme je disais tout à l'heure, près de 90% d'entre eux sont issus de très basse caste, voire de caste d'intouchables. Voilà, donc pour le moment, la situation est plus ou moins la même que pour celle des chrétiens dans le pays, donc très grande vulnérabilité. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est qu'il y a une forte perméabilité entre ces catégories, même d'identification religieuse. Donc quand on parle de minorité religieuse, le terme est assez trompeur. puisque à l'intérieur même, c'est-à-dire que là, par exemple, la minorité hindoue est complètement clivée par des discriminations de caste et des différences de niveaux sociaux au sein même de cette propre communauté. Donc on n'a pas vraiment de communauté à part entière qui s'identifie comme telle et qui peut mener une action politique en son nom.
Et est-ce qu'on se dit dans cette minorité hindoue pakistanaise que l'on ferait bien de quitter le pays pour trouver refuge dans l'Inde voisine ?
Alors on dénombre depuis 2011 à peu près, je crois, 1000 hindous pakistanais qui auraient émigré en Inde. Il y a beaucoup plus de migration de la part des chrétiens pakistanais que de la part des hindous. D'abord déjà qu'il faut avoir les moyens d'immigrer, ça coûte cher. Donc généralement ce ne sont pas ceux qui sont en bas de l'échelle qui peuvent se permettre de faire ce saut à l'étranger.
Et est-ce qu'à l'inverse, Jean-Luc Racine, du côté de Narendra Modi, il y a un appel au fond à la communauté hindoue du monde entier, et notamment peut-être celle du Pakistan, pour dire « revenez à la maison » ?
Ah oui, dans le programme électoral du BJP, cette question était déjà inscrite, et en 2014 et en 2019, en mentionnant hindou, sikh, jain, c'est-à-dire des religions nées sur le sol de la terre sacrée de l'Inde. Et là, dans la loi qui vient d'être votée, les chrétiens ont été rajoutés. Et ça, je pense que c'était un signal pour les pays occidentaux en disant, vous voyez bien... parce qu'ils font quand même attention à la Commission américaine sur les libertés religieuses, qui vient d'ailleurs de rendre des rapports qui ne sont pas très favorables, c'est le moins qu'on puisse dire, pour le gouvernement Modi. Oui, il y a aussi, d'un côté, cette affaire de retour à la maison. Ça a été un mouvement, pas d'une très grande ampleur, mais symboliquement important, où on a vu des militants demander, et à des musulmans et à des chrétiens, de se « reconvertir » entre guillemets à l'hindouisme.
Merci beaucoup à Paul Rollier qui est à l'instant avec nous en direct par téléphone. Un grand merci également à vous, Jean-Luc Racine, de nous avoir accompagnés ce matin. Je rappellerai que vous avez dirigé notamment la revue, le numéro 173 de la revue Hérodote géopolitique de l'Inde. Un grand merci également à Christophe Jaffrelot qui nous a quittés, qui n'est plus avec nous, mais dont je rappelle l'ouvrage L'Inde de Modi, national, populisme et démocratie ethnique. C'était aux éditions Fayard. On reprendra notre série consacrée à la foi politique et au pouvoir religieux demain. Nous parlerons du schisme, on ira du côté de l'Irak, de l'Iran notamment. Pour l'heure, 11h53, on retrouve Brice Couturier, son tour du monde des idées.
Le tour du monde des idées, Brice Couturier.
Bonjour Brice.
Bonjour Florian.
Vous nous parlez depuis le début de la semaine de Sándor Márai, cet auteur hongrois. Un quart de siècle après les événements relatés au jour le jour dans son journal, qu'est-ce qui a bien pu pousser Márai à y revenir dans un récit intitulé « Mémoire de Hongrie » Brice?
Oui, il a alors quitté la Hongrie pour toujours. Depuis ses exils successifs, l'Italie, les États-Unis, Sándor Márai publie sans grand succès, en traduction, des livres qui sont devenus aujourd'hui des classiques, comme « La nuit du bûcher » ou « Les métamorphoses d'un mariage ». Intellectuel hongrois exilé en Occident, il s'y sent traité, dit-il, comme un provincial. Et s'il rédige ses « Mémoires de Hongrie », c'est parce qu'il faut l'éloignement spatial et temporel pour décrypter le sens de ce que l'on a vécu. Et Márai entend témoigner pour avertir, faire comprendre à ses frivoles occidentaux à quoi a ressemblé chez lui la prise du pouvoir au nom de cette idéologie qui les fascine, le communisme. Or Márai est l'un des esprits les plus pénétrants d'Europe centrale et il fait de ses « Mémoires de Hongrie » l'égal de la pensée captive de Miłosz ou de la plaisanterie de Kundera. Alors il écrit bien sûr par nostalgie de sa patrie perdue. Le pouvoir alors a fait retirer ses livres d'avant-guerre des bibliothèques publiques, les exemplaires de sa grande trilogie rédigée pendant la guerre consacrée à une analyse du caractère démoniaque de l'hitlérisme, moisissent dans la cave de la maison d'édition qui avait publié son œuvre. un critique à la botte du régime a imaginé que le communisme était indirectement visé par ce roman. L'éditeur a été nationalisé, son entreprise confiée à l'un de ses nouveaux apparatchiks, chargé de mettre au pas une société hongroise très largement hostile au système dans lequel on a décidé de la faire vivre. Ces gens-là, comme les appellent les Hongrois décents, des êtres frustres mais ambitieux, terrorisés eux-mêmes par le régime stalinien au service duquel ils se sont mis par opportunisme, et ils sont désormais chargés d'appliquer la ligne du parti dans tous les domaines. Or, Sándor Márai a été catalogué par le tout-puissant Lukács comme un écrivain bourgeois.
Et en un sens, Brice, il n'avait pas tort. Márai assumait fièrement son appartenance à la bourgeoisie.
Oui, mais à ses yeux, la bourgeoisie se définit non pas par une position dans le système de production, comme pour les marxistes, mais par la fidélité à certaines valeurs, comme le respect de l'intimité domestique. Il relève ainsi dans ce journal que les officiers russes, attirés par sa réputation d'écrivain, entrent chez lui à toute heure, sans frapper, ni être invités. Bourgeoise aussi, la liberté de conscience, la capacité de critiquer ce qui choque ou ce qui heurte le sens commun, le sentiment des limites à préserver entre soi-même et la masse indifférenciée, la précision, la distinction, la décence, valeur bourgeoise. « J'étais un bourgeois, écrit-il, certes caricatural, et je le suis toujours, même vieilli et en exil. Être bourgeois n'a jamais été pour moi une situation de classe, mais une vocation. » Fruit de la culture occidentale contemporaine, le bourgeois est ce que l'homme a créé de mieux. Fin de citation. Et Márai de rendre hommage, je cite, à la bourgeoisie bâtisseuse de villes, engagée dans la construction de l'Europe et qui entendait faire accéder les masses au mode de vie bourgeois. À la bourgeoisie qui s'est faite, je cite encore, le porte-parole des idées chères aux Lumières et à la Révolution française. Dans une société déboussolée, où les classes moyennes et les salariés sont ruinés par une inflation délibérée, où les anciens repères ont volé en éclats, eh bien, ces classes moyennes adoptent, écrit Márai, la posture du hérisson. Ces survivants, je cite encore, savaient que le conservatisme et le respect des traditions n'étaient pas seulement pour eux une question d'hygiène, mais constituaient aussi une tâche historique. Ils savaient qu'en refusant de demander grâce, de se plaindre, en préservant cette énergie, gage de tout progrès, qui émanait de leur passé, de leur culture et de leur tradition, ils verraient bientôt ce régime fondé sur la violence se tourner vers eux, car il aurait besoin d'eux. Et on comprend pourquoi Márai avait publié dès 1940 ce livre étrange qui s'intitule « Dernier jour à Budapest ». C'est un hommage romancé à son maître en littérature, Julia Crudi. 7 ans plus tard, comme il le relève dans ses « Mémoires de Hongrie », je cite encore « Le culte de Crudi se répand dans le morne quotidien des habitants ». Il se réfugie dans cette littérature du début du XXe siècle qui savait si bien mêler le réalisme et l'onirisme, l'ivresse et le dégrisement. Dans la Hongrie communiste, une partie de la population fut soudain prise d'une immense nostalgie pour cette Hongrie différente. Peu d'écrivains sont capables, comme Crudi, d'évoquer, dit-il, les éléments mythiques de la réalité. Eh ben, Márai, lui aussi, il possède l'art de mettre en mots, en métaphores, les tournants de l'histoire et puis l'humeur collective de ses concitoyens. Je le cite encore, « Que l'on confie l'histoire aux écrivains, ils dépeindront toute une époque avec forces anecdotes et panaches de surcroît. » Eh bien, la manière dont le nœud coulant du stalinisme s'est resserré autour du cou d'une société européenne, hostile mais impuissante, a rarement été décrit avec autant d'acuité que dans ces « Mémoires de Hongrie » de Sándor Márai.
Merci beaucoup Brice Couturier pour cette chronique de Sándor Márai à retrouver sur le site de France Culture, www.franceculture.fr. On se retrouve demain, Brice, dans un très court instant. C'est Olivia Gesbert et La Grande Table.